France Musique. Musicopolis. Stravinsky, Paris, 1913.
Le 29 mai 1913, le grand jour pour Stravinsky, depuis 3 ans déjà qu'il a eu l'idée de son nouveau ballet, Le Sacre du Printemps. Enfin, la partition est terminée, l'immense travail de préparation de l'orchestre et des danseurs est achevé lui aussi, la générale est passée, tout s'est déroulé au mieux. Ce soir, c'est enfin la première publique, dernière recommandation du chef.
Un rythme très particulier. Oui, la mélodie, suivez le rythme. Quoi qu'il arrive, suivez-moi.
И нам небольшой шум вокруг спектакля не помешает.
En finissant à Saint-Pétersbourg les dernières pages de L'Oiseau de feu, écrit Stravinsky, j'entrevise un jour de façon absolument inattendue, car mon esprit était alors occupé par des choses tout à fait différentes, j'entrevis dans mon imagination le spectacle d'un grand rite sacral païen. Les vieux sages, assis en cercle et observant la danse à la mort d'une jeune fille, qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. Ce fut le thème du Sacre du Printemps. Je dois dire que cette vision m'avait fortement impressionnée et j'en parlais immédiatement à mon ami le peintre Nicolas Roerich, spécialiste de l'évocation du paganisme. Il accueillit mon idée avec enthousiasme et devint mon collaborateur pour cette œuvre. À Paris, j'en parlais aussi à Diaghilev, qui s'emballa d'emblée pour ce projet. Paris, où je me rendis pour la saison 1912 de Diaghilev, raconte Stravinsky, j'entendis entre autres choses la brillante partition de Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, à laquelle l'auteur m'avait déjà initié auparavant en me la jouant au piano. C'est certainement non seulement une des meilleures œuvres de Ravel, mais aussi une des plus belles productions de la musique française. C'est cette année aussi que j'entendis pour la première fois à l'Opéra Comique, de la loge où Debussy m'avait invité, une autre grande œuvre française, Pelléas et Mélisande. Je voyais alors beaucoup Debussy qui me touchait profondément par la sympathie qu'il me témoignait, à moi et à ma musique. J'étais frappée par la finesse de ses appréciations. Debussy m'invitait souvent chez lui et un jour, j'y rencontrais Éric Satie, que je connaissais déjà de nom. Il me plut du premier coup. C'était une fine mouche. Il était plein d'astuces et intelligemment méchant. À l'été 1912, pendant qu'il avance dans la composition du Sacre, Stravinsky se rend à Bayreuth pour écouter Parsifal. Il apprécie la musique, mais pas le spectacle ni l'ambiance. Il écrit « En vérité, toute cette comédie de Bayreuth avec son risible protocole n'est-elle pas simplement une singerie inconsciente du rite sacré ?» Mais revenons au Sacre. « Je dois dire tout de suite, poursuit Stravinsky, et avec une entière franchise, que l'idée de travailler avec Nijinsky me troublait, malgré notre bonne camaraderie et ma grande admiration pour son talent de danseur et de mime. Son ignorance des notions les plus élémentaires de la musique était flagrante. Le pauvre garçon ne savait ni lire la musique, ni jouer d'aucun instrument. Ses lacunes étaient si graves qu'elles ne pouvaient être compensées par ses visions plastiques, parfois d'une réelle beauté. On comprend mes appréhensions, mais je n'avais pas le choix. Fokine s'était séparé de Diaghilev, Romanov était occupé par la Salomé de Florent Schmitt, il ne restait donc que Nijinsky. Et Diaghilev, ne désespérant toujours pas d'en faire un maître de ballet, insistait pour qu'il montât et le Sacre et Jeux de Debussy pour la même saison. Thank you. Stravinsky décrit les difficultés rencontrées avec la chorégraphie du Sacre du Printemps. Je cite. Nijinsky commença par exiger pour ce ballet un nombre fantastique de répétitions que, matériellement, il était impossible de lui accorder. Cette exigence deviendra compréhensible quand je dirai que lorsque je me mis à lui expliquer en ligne générale et en détail la construction de mon œuvre, je m'aperçus que je n'arriverais à rien avant de l'avoir initié aux rudiments de la musique. Valeurs, rondes, blanches, noires, croches, etc. Mesures, tempo, rythme, et ainsi de suite. Toutes ces choses, il les retenait avec infiniment de peine. Mais ce n'était pas tout. Quand, écoutant la musique, il méditait des mouvements, il fallait toujours encore lui rappeler de les faire concorder avec la mesure, ses divisions et ses valeurs. C'était une besogne exaspérante, on avançait à pas de tortue. Ce travail devenait encore plus pénible pour la raison que Nijinsky compliquait et surchargeait ses danses outre mesure et créait ainsi aux exécutants des difficultés parfois insurmontables. Cela tenait autant à son inexpérience qu'à la complexité d'une tâche qui ne lui était pas familière. Stravinsky a des mots très durs pour ce qu'il juge être de l'incompétence de la part de Nijinsky. Après la première du Sacre, il se plaindra de son insuffisance. Néanmoins, le compositeur ajoute « Je n'ai pas besoin de souligner qu'en écrivant tout ce qu'on vient de lire, je suis bien loin de vouloir porter atteinte à la gloire de ce magnifique artiste. Son image restera dans ma mémoire, et j'espère dans celle de tous les gens qui ont eu la chance de le voir danser, comme une des plus belles visions que le théâtre ait jamais révélées. » Durant l'hiver 1912-1913, où Stravinsky poursuit son travail sur le Sacre, il fait de fréquents voyages, sur l'invitation de Diaghilev, pour assister aux premières de L'Oiseau de Feu ou de Petrouchka dans les villes d'Europe centrale où les ballets russes sont en tournée. Berlin, où il rencontre Richard Strauss et Schoenberg et où il assiste à une audition du Pierrot Lunaire. Budapest et Vienne, où l'orchestre sabote les répétitions de Petrouchka. Revenu à Clarence, parallèlement à l'orchestration du Sacre, il compose ses trois poèmes de la lyrique japonaise, inspirés par le travail instrumental du Pierrot Lunaire. Au printemps, Ravel vient collaborer avec lui sur l'achèvement de la Kovanchina de Moussorgsky pour la prochaine saison des ballets russes. Stravinsky lui joue ses poèmes japonais. Il écrit « Friand d'orfèvrerie instrumentale et attentif aux subtilités d'écriture, Ravel y mordit tout de suite et décida de faire quelque chose d'analogue. Peu de temps après, il me joua ces délicieux poèmes de Mallarmé. Mon âme vers ton front où rêve au calme de rousseur. Le tout nouveau théâtre des Champs-Élysées a été inauguré fin mars 1913 avec une nouvelle production de Benvenuto Cellini de Berlioz. Gabriel Astruc, le directeur et fondateur du théâtre, a vu les choses en grand et il a imaginé une saison magnifique. Après Berlioz, honneur à Weber, avec la reprise de la version originale du Freischütz. Puis des soirées de gala avec les gloires nationales dirigeant leurs œuvres. Saint-Saëns, Debussy, Dindy, Fauré, Ducas. Anna Pavlova, la grande ballerine russe, ou l'américaine Loï Fuller viennent danser en complément des soirées d'opéra. On donne aussi la création parisienne du Pénélope de Fauré, créée au début de la saison à Monte-Carlo. La saison russe, prévue au Théâtre des Champs-Élysées par Diaghilev pour Gabriel Astruc en 1913, est époustouflante. Deux opéras au programme, Boris Godounov, déjà entendu les saisons précédentes, et la Kovanchina, inconnue encore en France, de Moussorgski, et trois ballets nouveaux, la Tragédie de Salomé, musique de Florent Schmitt, le Sacre du Printemps de Stravinsky, et le premier dans l'ordre chronologique, Jeu de Debussy. Stravinsky écrit: je me souviens nettement de l'avoir entendu, mais je ne suis pas sûre si ce fut à la générale ou à la première. J'aimais beaucoup cette musique. Debussy me l'avait fait d'abord entendre au piano, ce qu'il jouait bien, cet homme. L'élan et la verve de cette partition méritaient de la part du public un accueil plus chaleureux qu'il ne l'a été en réalité. Quant à la chorégraphie de ce ballet, elle s'est complètement effacée de mon souvenir.
Thank you.
Dans Chronique de ma vie, Stravinsky décrit la soirée de création du Sacre du Printemps. « Je m'abstiendrai, écrit-il, de décrire le scandale qu'il produisit. On en a trop parlé. La complexité de ma partition avait exigé un grand nombre de répétitions que Monteux conduisit avec le soin et l'attention qui lui sont coutumiers. Quant à ce que fut l'exécution du spectacle, j'étais dans l'impossibilité d'en juger, ayant quitté la salle dès les premières mesures du prélude, qui tout de suite soulevèrent des rires et des moqueries. J'en fus révolté. Ces manifestations, d'abord isolées, devinrent bientôt générales et, provoquant d'autre part des contre-manifestations, se transformèrent très vite en un vacarme épouvantable. Pendant toute la représentation, je restais dans les coulisses à côté de Nijinsky. Celui-ci était debout sur une chaise, criant éperdument aux danseurs « 16, 17, 18 !» Ils avaient leur compte à eux pour battre la mesure. Naturellement, les pauvres danseurs n'entendaient rien à cause du tumulte dans la salle et de leur propre trépignement. Je devais tenir Nijinsky par son vêtement car il rageait, prêt à tout moment à bondir sur la scène pour faire un esclandre. Diaghilev, dans l'intention de faire cesser le tapage, donnait aux électriciens l'ordre tantôt d'allumer, tantôt d'éteindre la lumière dans la salle. C'est tout ce que j'ai retenu de cette première. Stravinsky était loin de prévoir le déchaînement provoqué par le spectacle du Sacre du Printemps, d'autant plus que la générale s'était très bien passée, avec un public d'artistes, de musiciens, de gens de lettres et de représentants de la presse. Et il n'a pas pu assister aux représentations suivantes de son ballet, beaucoup plus calme, une fois le scandale de la première retombé. Il n'a pas non plus assisté aux représentations de la Kovanchina de Moussorgski, puisque 3 jours après la première du Sacre, il est tombé malade. Une fièvre typhoïde l'a cloué au lit 6 semaines dans une clinique. Le contre-coup, sans doute. Thank you. la danse sacrale, dernière partie du Sacre du printemps de Stravinsky, l'Orchestre symphonique de la Columbia, dirigé par Igor Stravinsky, un enregistrement de 1960. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette série Stravinsky sont à présent sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Monteil pour le mixage, Françoise Monteil et Philippe Demenoux pour les recherches et le site, et Béatrice Trichet pour la réalisation.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.